Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois. Guy Lopolarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec un membre éminent de cette association, Hervé Delouche. Hervé qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Bien, bonjour Guy.
Au sommaire, ce mois-ci, une maison d'édition que nous apprécions particulièrement, Hervé, et qui justement propose de belles découvertes de romans français, romans noirs ou romans social. Il s'agit de la Manufacture de Livres et nous évoquerons deux titres sortis récemment, Le Grand Soir de Gwenaël Bulto et Le Tableau du peintre juif de Benoît Sévrac. Mais nous commencerons par un titre sorti au printemps dernier. Ce n'est pas tout frais, mais c'est un roman à dévorer sans limite de consommation. Ça s'appelle « Jeannette et le crocodile » et c'est signé Séverine Chevalier. Hervé, un mot tout d'abord concernant les éditions, la Manufacture de Livres. Nous avons accueilli son directeur, Pierre Fourniaud, il y a quelques années, éditeur indépendant. Nous l'avions accueilli au Salon du Livre d'Arras, un 1er mai.
Oui, je me souviens très bien.
Voilà.
Je crois qu'il y avait Jean-Hugues Opel, Dominique Delahaye.
Et je pense que cette émission est toujours en écoute hein, sur le site de PFM. Donc voilà, c'était une rencontre vraiment intéressante. Alors, bon, je sais que tu connais très bien cette maison d'édition, Hervé. D'ailleurs, il t'arrive de travailler pour eux en tant que correcteur. Et notamment, tu as corrigé deux des livres dont nous allons parler ce soir, Le Grand Soir, hein, et puis Le Tableau du peintre. Du peintre juif.
Oui.
Donc, corrigé, relu. Alors,
je vais en parler sans.
Oui.
Je pense qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Mmh. Voilà.
Non, non, je sais. Mais justement, une petite précision technique.
Oui.
Pour l'un, tu as corrigé et relu, et pour l'autre, tu n'as fait que corriger. Donc, quelle différence entre ces deux travaux, hein, donc la correction et la relecture.
La correction, la relecture, c'est quand en fait tu as un jeu d'épreuves et que tu es le dernier passage avant que ça parte à l'imprimerie, enfin, mmh. Voilà. Et la correction proprement dite, c'est plus en amont, c'est-à-dire qu'en gros, t'es le troisième lecteur après l'auteur ou l'autrice, après l'éditeur, et puis voilà, et donc t'as des choses à unifier, quelques corrections à proposer, enfin c'est voilà. Tandis que la relecture, je dirais, mais j'aime beaucoup faire ça, mais c'est un peu jouer la voiture balai, si l'on peut dire, voilà.
D'accord, bon. Alors donc, un mot sur cet éditeur qui sévit
oui,
depuis quelques années.
La Manufacture de Livres, c'est un éditeur, alors petit par la taille de l'équipe, qui est une équipe très performante et très sympathique, mais petit, mais évidemment pas péjoratif. Ça veut dire que c'est une maison indépendante qui est née en 2009, je crois,
mm-hmm.
et qui s'est... il peut y avoir des échappées, mais qui s'est notamment construite sur deux bases, qui étaient une base de bouquins, documents, et notamment sur les... les mauvais garçons et les mauvaises filles aussi, des biographies de figures du milieu qui pouvaient aller de Meyer Lansky à une biographie de Gaëtan Zampa le parrain marseillais qui était né dans les quartiers de la Cayolle et qui est décédé mystérieusement au Beaumet, en passant par une histoire des Yakuza, c'est-à-dire un intérêt où Pierre Fourniaud était secondé d'ailleurs par le journaliste indépendant spécialiste du milieu des mafias, Jérôme Pierra, et aussi spécialiste du tatouage. Et puis l'autre versant de la manufacture, c'est un versant, celui qui va nous intéresser.
Excuse-moi Hervé, avant d'aborder ce deuxième versant, je voudrais quand même citer un livre qui est sorti très récemment, en novembre dernier, Vite prostituée, de Marie-Thérèse, un premier récit autobiographique d'une prostituée qui avait été publié entre 1947 et 1948. Dans la revue Les Temps Modernes, et donc viennent de reproposer de belles manières les éditions, la manufacture de livres. Encore un témoignage de ce souci de s'intéresser aux marges et donc
qui est un livre qui avait été d'ailleurs tout à fait salué, si je me souviens bien, par Sartre et
Simone de Beauvoir.
Complètement, qui était un témoignage. On peut un peu penser à ce qu'a écrit également Griselidis Réal, mais effectivement, c'est un témoignage absolument remarquable de prostituée. Un texte aussi littéraire très, très fort, oui, tout à fait d'accord.
Alors, donc, le deuxième versant, roman qui regroupe qui regroupe des auteurs français contemporains.
Oui, qui regroupe des auteurs français et qui est devenu un véritable, un véritable vivier, une véritable référence pour le roman français, et notamment du roman noir, puisque on y trouve au fil du temps, on y a trouvé des plumes, enfin dont des auteurs qu'on a souvent cités ici ou au 1er mai comme Antonin Varenne, Laurence Bieberfeld,
Jean-Hugues Opel.
Jean-Hugues Opel, bien évidemment,
Jérôme
Marat, Karine Joachim,
Jérôme Leroy.
Jérôme Leroy et son superbe Dernier jour des fauves, et sans oublier que c'est la manufacture de livres qui a mis sur le devant de la scène quelqu'un comme Franck Bouys, qu'il a quitté depuis, mais avec, à partir de Grossir le ciel en 2014, jusqu'à Née d'aucune femme. C'est vraiment une maison d'édition sur laquelle, en tout cas, côté roman français, il faut compter, et qui n'hésite pas d'ailleurs à faire des choses qui peuvent paraître, je ne sais pas si on peut dire risquées, mais en tout cas qui sont des choses innovantes. Par exemple, un recueil de, là tout récemment, il y a eu un recueil de nouvelles qui s'appelle Nos futurs désirables, qui va un peu à l'inverse de la tendance dystopique, puisque ça rassemble des 12 textes qui nous invitent à aborder demain avec un petit peu d'espoir, et où on trouve à la fois des auteurs confirmés, jeunesse ou adultes, comme on dit, comme Rachel Corenblit, Patrick Douedney ou Laurent Petit-Mangin, et on trouve également des textes de jeunes gens, garçons et filles, lauréats d'un concours Écopos. Enfin voilà, c'est la manufacture, c'est aussi un roman autobiographique à venir de Pauline Hillier, Les Contemplés. les contempler, ça fait écho à un roman de Victor, à des poèmes de Victor Hugo qui seront chers à ton cœur, j'imagine. Et c'est un, voilà, Pauline Lillier, elle a été arrêtée lors d'une manifestation des femmes en Tunisie. Elle a été emprisonnée. Elle raconte les contempler. Ce sont des superbes portraits très forts de ces, pour qu'on n'oublie pas ces compagnes de détention qui, elles, ont pris bien plus cher qu'elles. Voilà.
Voilà, dans les auteurs français, on peut citer aussi François Médéline, hein, qu'on
bien
avait
sûr,
reçu.
On va en oublier forcément.
On va en oublier, hein, mais voilà.
Et parmi des très bons.
Oui, ouais, voilà. Et donc, et puis, alors, des découvertes. Et donc, une des découvertes, Séverine Chevalier, pour son roman Jeannette et le crocodile. Alors, ce n'est pas, ce n'est pas un premier roman, hein, puisqu'elle avait. Déjà écrit Recluse en 2011 et Clouée l'Ouest en 2014 et Les Mauvaises en 2018. Mais j'ai quand même l'impression que ce roman de Séverine Chevalier, Jeannette et le crocodile, l'installe vraiment dans la littérature roman noir, roman social français de haut niveau. Alors un mot, bon, nous allons revenir sur le roman, mais justement sur cette auteure, Hervé, Séverine Chevalier.
Oui, bah c'est une, à mon avis, c'est une des plumes les plus marquantes et intéressantes apparues dans cette dernière décennie. Elle n'a peut-être pas rencontré le lectorat que sa plume mérite. C'est intéressant parce que justement tu as employé, elle est à la fois elle est dans du roman noir, mais du roman, on va en parler plus précisément en parlant de Jeannette et du crocodile, mais elle fait du roman noir qui n'est pas sanglant, mais qui met le doigt sur les blessures des êtres qui sont situés dans le monde où ils vivent. Elle va profond pour scruter ces êtres, mais en même temps en évitant tout psychologisme. Voilà, donc ce sont des romans qui sont au plus près des êtres qui les peuplent et qui en même temps mettent des mots sur le monde dans lequel on vit et sur la brutalité de ce monde et sur le dérèglement de ce monde. Et voilà, elle a eu un prix pour, je crois que c'était pour Clouée l'Ouest. Moi, je l'avais découvert à ce moment-là dans un festival. Et puis voilà, écoute, on ne peut que souhaiter. Je pense aussi que Jeannette et le crocodile ouvre grand les choses. On peut remercier Jérôme Leroy qui a quand même réussi un passage en poche pour le premier roman de Séverine Chevalier, Recluse, à la petite Vermillon. Mais
de la table
voilà,
ronde.
Il faut la lire absolument.
Alors donc Jeannette et le crocodile. Alors on découvre Jeannette quand elle fête ses 10 ans. C'est son anniversaire. Avec sa mère, elles avaient de grands projets pour cette journée. Elles devaient aller voir Éléonore, un crocodile trouvé dans les égouts près du Pont Neuf et recueilli aux eaux de Vannes. Et Jeannette ne voulait pas d'autre cadeau. Alors bon, il y a bien sûr des contretemps qui vont remettre cette visite pour les 10 ans de Jeannette à ses 11 ans. Et puis à chaque fois, il y aura un contretemps, un événement qui amènera à remettre cette visite, mais c'est un peu le fil rouge de ce roman, ce crocodile qu'on ne verra jamais finalement.
Oui.
Mais voilà, ça installe déjà ce roman dans un regard entre le social et puis aussi la nature. Les questions écologiques, l'éco-anxiété, etc. On est vraiment en pleine actualité, Hervé.
On est en pleine actualité, Jeannette et le crocodile, c'est on va parler sans doute des personnages qui peuplent ce roman, des personnages principaux, mais c'est l'histoire quand même d'une il y a cette histoire du crocodile que évidemment que Jeannette ne verra pas. Le livre étant construit, je crois, je ne sais plus si c'est sur 6 ans qui sont des années anniversaires à chaque fois, c'est les anniversaires de Jeannette. Mais c'est l'histoire d'une destruction. On est on peut peut-être situer l'endroit. On est à Calthe-les-Bains, c'est ça, dans une station thermale sur le déclin. Et puis le récit, il est fait en dehors de Jeannette. Je crois qu'il commence avec Pascal, qui est son oncle, qui a pris la foudre dont on dit qu'il a perdu une partie de ses capacités. Il est dans un centre de réadaptation, etc. Et en même temps, il va mettre des mots, il va un peu reconstruire. On sait d'entrée de jeu qu'il y aura un drame, qu'il l'apprend par les informations télévisées. Et il va être il est en fait au plus près de la petite Jeannette, et il va nous renseigner, il va documenter les choses. Puis il y a la mère Blandine qui travaille, qui essaie de joindre les deux bouts, qui est alcoolique aussi. Il y a des pages d'une extrême justesse de Séverine Chevalier sur Blandine et sur son drame personnel, sur le fait que la raison pour laquelle ça va différer et toujours différer la visite au crocodile. Et j'ai envie de citer un petit passage. On est avec Blandine. D'abord, stabiliser l'espace dans sa tête. Lit, table de nuit, porte, premier étage. Ça a l'air bon, c'est repéré et nommé, ça ne bouge pas. C'est du solide. Il y a peut-être là une fenêtre de tir à ne pas louper pour se lever, arranger un peu ses cheveux, ramasser et cacher la bouteille dans la table de nuit. Descendre et embrasser sa fille en bas, lui dire combien elle l'aime, boire un petit coup vite fait et un café. Non, d'abord un café, puis un petit coup dans la même tasse, discrètement. Prendre enfin la route avec la bagnole au phare gauche cassé qu'il faudrait qu'elle répare. Et le phare cassé s'ajoute à tout ce qui stagne en attente et dont il faudrait pourtant s'occuper pour stopper la lente dégradation des choses. Et cette dégradation, ça me semble être le thème de ce roman dans cette petite ville où il y a aussi l'usine qui va fermer, l'usine dont la puanteur salit tout, les choses, les êtres, les sentiments. Et puis il va y avoir, et peut-être j'ai beaucoup parlé, je te laisse en parler, l'arrivée de Drick Hope.
Oui. Donc qui va devenir effectivement le compagnon de la mère de Jeannette, et bon, un personnage aussi très très particulier qu'on va découvrir au fil du roman. Moi ce que je voudrais dire,
juste un mot quand même, parce qu'avec ce patronyme de Hope, qui quand on le prononce me fait penser à l'espoir en anglais, même si ça ne s'écrit pas pareil, H-A-U-P-E, je crois, mais on verra, les lecteurs le découvriront, mais que c'est en tout cas un faux espoir, mais qui va jouer un rôle extrêmement important dans le fait de dérégler un peu plus les choses. Enfin, pas pour lui, en tout cas.
Non. Mais bon, pour moi, l'espoir, il vient plutôt du côté du crocodile, qui a ce parcours si particulier. Parce que, bon, il faut quand même dire que c'est un roman qui est assez court, il y a un petit 200 pages, et qui se lit d'une traite. Hein. Il y a aussi, on n'est pas dans le sombre à outrance, dans le noir. Il y a aussi j'ai envie de dire un peu de gaieté dans ce roman. Et donc un grand plaisir à le lire. Alors tout en sachant, tu l'as dit, qu'on avance dans ce roman en sentant arriver le drame, mais sans savoir où il viendra et qui il va toucher, hein, ce drame. Et ça, ça n'apparaît qu'à la fin, on n'en parlera pas, bien sûr. Et c'est une sacrée prouesse. C'est un roman noir de fait, un roman de la victime, des victimes. Et pour moi, le tour de force, c'est une compilation des thèmes que l'on retrouve souvent dans le roman noir, une compilation très réussie. Bon, il y a bien sûr la déchéance sociale, les usines qui ferment, l'emprise, la manipulation, l'alcool, la dépendance, la nature, le rural, l'innocence de l'enfance et de la jeunesse, sexisme, écologie, les espoirs déçus, les petits boulots, les plans sociaux, etc. Alors il y a aussi la corruption, alors c'est peut-être le thème le moins présent, avec un maire pas tout à fait corrompu mais pas loin de l'être, avant de tout plaquer. Là aussi c'est un personnage intéressant, hein, dans cette commune qui est en pleine déchéance. Et pour moi c'est vraiment le tour de force, quoi, parce qu'on n'est pas dans quelque chose de plaintif, de pleurnichard, et au contraire il y a toujours ces possibilités de changer de vie, d'amélioration, d'ailleurs, qui sont très intéressantes.
Mais tout à fait, c'est ça qui est la prouesse, c'est qu'avec une très grande force, une très grande beauté d'écriture, il y a toujours comme ça, ça n'est pas du tout, rien n'est plombant. Séverine Chevalier n'a pas non plus un regard qui surplombe, qui parlerait du social de haut. Et par exemple, il y a des passages comme ça, des personnes qu'on entrevoit. Je me souviens de vers le milieu du roman, ils prennent un café, je ne sais plus. Il y a une serveuse qui se prénomme Jessica, et en deux pages, on a une tranche de vie de Jessica, comment elle a été battue, la proie d'un homme, et comment finalement elle rompt avec ça. Enfin, c'est-à-dire que il y a aussi ces minuscules révoltes, ces minuscules espoirs. Il y a une profonde humanité et une poésie du verbe. Oui.
C'est un roman de la vie, en fin de compte. Oui. Je le pensais. Qui ferait, tu as évoqué des prix, hein, un prix que Séverine Chevalier avait déjà obtenu pour un roman précédent. Pour moi, celui-là, Jeannette et le crocodile, ferait un très très bon prix, Jean Abila Mekker. Peut-être que des membres du jury nous écoutent.
J'en suis absolument convaincu, mais voilà. Nous verrons ce que ce prix, c'est ce qui sera pris en considération, mais en tout cas, j'en suis absolument convaincu. Pour connaître un petit peu l'œuvre de Jean-Émile Améter, je pense que nous sommes dans une descendance, enfin dans une légitimité complète, et voilà. Il faut découvrir Jeannette et le crocodile.
Thank you.
Radio PFM, vous écoutez Variations en noir. Hervé, un extrait de la bande originale du film Affliction, bande originale signée Michael Brook, un film adapté d'un roman de Russell Banks. Voilà,
je nous, te vois venir, oui.
Voilà, nous voulions évoquer...
Un film de Paul Schrader à revoir avec sans doute un des plus beaux rôles de Nick Nolte.
C'est pour nous l'occasion de saluer Russell Banks, cet auteur américain qui est mort le 7 janvier. Janvier dernier à 82 ans. Le Monde titre son article consacré à Russell Banks, La voix de l'Amérique d'en bas. Et je trouve que c'est un parfait résumé si l'on peut résumer une telle œuvre, mais c'est quand même un parfait résumé du message littéraire de Russell Banks, Hervé.
Ah oui, je pense que moi, Russell Banks, je l'avais découvert avec de Beaux Lendemains, un roman ça se passait, je crois, dans le nord de l'État de New York, et c'était l'embardé, l'accident d'un bus de ramassage scolaire, avec la mort de plusieurs enfants les réactions de la communauté étaient racontées par plusieurs récits, et notamment ça commençait avec, je crois qu'elle s'appelait Dolores Driscoll, qui était la conductrice complètement anéantie, et c'était sous le règne de Beaune, Trailer Park, plein d'autres romans ou recueils de nouvelles ont suivi, avec à chaque fois cette attention portée à des tranches de vie, à une manière de mener le récit qui n'est pas univoque, qui là non plus n'était pas une manière surplombante mais d'une profonde authenticité. Je trouve qu'il y a un lien. Russell Banks est décédé, extrêmement connu, il y a un lien entre Séverine Chevalier dont on a parlé, mm-hmm. et ses personnages et ceux de Russell Banks dans un autre univers.
Oui, c'est raccord. Tous les livres de Russell Banks sont publiés par Actes Sud et ils sont quasiment tous en poche. Actes Sud, oui. Donc vraiment à découvrir. Oui, donc on est complètement raccord avec le travail éditorial de la manufacture de livres, et Hervé qui met en avant des auteurs, je cite l'éditeur, qui se font les témoins de leur époque à travers leurs histoires éclairent notre réalité.
Séverine Chevalier, elle disait dans une interview, essayer d'écrire, c'est essayer de trouver sa façon de dire le monde, c'est essayer de dire non pas une vérité absolue, mais d'essayer de trouver des vérités dans un monde de mensonges, notamment orchestrés par la société marchande, le capitalisme. Et je crois que le souci de l'œuvre de Russell Banks répond aussi à ce désir de vérité-là.
Alors il y a deux livres parmi ceux qui sont sortis récemment dont nous voulions parler, qui nous ont vraiment intéressés. Le tableau du peintre juif de Benoît Sévrac. Donc lui c'est un auteur déjà quand même un peu plus connu de la manufacture. C'est un roman vraiment très très intéressant. C'est un roman très intéressant, avec une partie historique sur la fuite des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, et notamment ceux qui sont passés par les Pyrénées,
les arrières. Comment Stéphane, dont la vie part un peu en quenouille, va se retrouver avec le legs d'un tableau.
Voilà. Et donc une Voilà. Et donc vraiment, voilà, c'est très très.
Avoir été peint par un peintre juif que les grands-parents du Stéphane en question avaient caché pendant la guerre, et il va donc faire des découvertes qui ne seront pas. Pas forcément uniquement,
mais vraiment une partie historique, une partie historique très 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 bien vue, très bien amenée. Mais nous voulions peut-être un peu plus évoquer Le Grand Soir de Gwenaël Bulteau, un auteur plus jeune en termes de publication,
oui,
puisque
c'est son deuxième roman publié. Hein. Oui, absolument.
Voilà.
Et après La République des Faibles, voilà. Qui a été très remarqué parce qu'il a remporté un prix qui s'appelle le prix Landerneau, qui était un prix important, qui est un prix créé par Michel-Édouard Leclerc, mais qui a eu comme lauréat des gens comme Fred Varga, Hervé Lecor, Sandrine Collette, Caril Ferret, donc pas des moindres, disons. Et là, avec Le Grand Soir, son deuxième roman, Gwenaël Bulteau, il creuse cette époque qui l'intéresse beaucoup, qui est une époque dont on connaît que le joli versant, qu'après la guerre de 14 et son horreur, on a appelé la Belle Époque. Mmh. Et Le Grand Soir, ça commence en 1905 avec
le 22 janvier 1905.
Michel, voilà.
Donc là, on est en plein roman noir historique, hein, qui va nous mener donc de ces obsèques, mais qui va aussi nous mener à Roquefort pour une grève des ouvrières des usines à l'époque on disait pas agroalimentaire mais c'est ça, ou même à Courrières en 1906 au moment de la catastrophe minière. Le début est vraiment.
Il y a eu plus de 1000 mineurs qui avaient trouvé la mort.
Et le début est vraiment saisissant. Je trouve que c'est vraiment très très bien, très bien, très bien écrit, très bien raconté. Hein, ce cortège funéraire de Louise Michel, icône de la commune, et donc d'une présence emblématique de Louise Michel dans ce livre qui s'attache aussi beaucoup à la question de l'émancipation de la femme, Hervé.
C'est un thème important. Dans ce roman-là, il y a une mise en avant des femmes, parce que dans le roman précédent, La République des Faibles, les femmes subissaient la situation, même s'il y avait on sentait apparaître une volonté émancipatrice. Et là, l'auteur a voulu et réussi à faire le portrait de femmes fortes, que ce soit parce qu'il faut dire que au départ, il y a la disparition de la jeune Jeanne Desrosel, qui est une jeune femme de bonne famille, mais qui a épousé les idées du peuple, disons.
Voilà.
Et puis, il va y avoir, je crois que c'est sa cousine. C'est sa cousine, voilà Lucie, qui va faire preuve d'un esprit... qui veut la retrouver, qui va enquêter, qui va elle-même rompre avec son milieu pour se faire. Elle va fréquenter les mêmes milieux. Et ça va aussi nous faire découvrir des personnages qui ont réellement existé et auxquels, autour desquels ce roman fait également un travail de mémoire. Je pense à, par exemple, Madeleine Pelletier, qui a été une pionnière de la révolution sexuelle, qui a été la première féministe à avoir défendu le droit à l'avortement dès 1913, je crois, mais qui venait du peuple et qui avait été une chercheuse en anthropologie et psychiatrie, qui s'habillait en homme parce que pour elle c'était une manière de défendre une égalité. Enfin bon, voilà.
Avec en point de mire le le 1er mai 1906, hein, puis voilà, avec l'objectif d'une vraiment d'une manifestation massive, à la fois bien sûr des mineurs, des ouvriers, hein, qui réclament un travail qui ne les condamne pas à mort, mais aussi justement des femmes, hein, qui se rassemblent pour faire entendre leur droit à la parole et à disposer de leur corps. Alors donc à la fois
c'est aussi un roman sur c'est ça aussi qui est très subtil, c'est aussi un roman sur les faux semblants, c'est-à-dire que cette manifestation qui va d'ailleurs faire peur, qui va vider Paris de ses bourgeois, etc., eh bien évidemment elle n'aura pas l'ampleur que tout le monde pense qu'elle aura, que ce soit les organisateurs, la police, etc. Et de même, il y a des personnages qui ne sont pas exactement ce qu'ils sont. On va aussi croiser une autre femme très intéressante, la citoyenne Sorgue, qui va de grève en manifestation, qui harangue les ouvriers et qui est accompagnée par un homme, le roi, je crois, qui n'est peut-être pas exactement ce qu'il est. Enfin bon, tout le roman repose aussi subtilement sur ces ambiguïtés-là.
De sacrés portraits. En tout cas, donc, oui. Un auteur que nous recommandons, Gwenaël Bulto. Et donc, ce roman, c'est Le Grand Soir, aux éditions La Manufacture de Livres. Donc, nous vous recommandons aussi Le tableau du peintre juif de Benoît Sévrac et, bien entendu, vous l'aurez compris, Jeannette et le crocodile de Séverine Chevalier, toujours aux éditions de la Manufacture de Livres. C'était Variation en noir dans Variation, une émission de Radio PFM réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec Hervé Delouche. Hervé, au revoir.
Eh bien, au revoir Guy, et un grand merci.
merci à toi, et de très bonnes...
Bonne lecture à tous et tous, bonne année au fait. Voilà.
Et oui, c'est notre émission de janvier. Elle passe fin janvier, mais il est encore temps, tu as raison,
oui,
de
on
souhaiter.
A encore le droit.
Voilà, donc de très bonnes découvertes, de très bonnes lectures. Rendez-vous dans un mois.